France Culture. Les nuits de France Culture.
Il est midi et le temps semble s'arrêter. Dans la voûte céleste, le soleil atteint son zénith et un doute se fait jour. Pourrait-il demeurer immobile, ne plus repartir? Cette antique frayeur a inspiré toutes les cultures et continue de nous interpeller de manière peut-être moins inquiète, peut-être plus apaisée. Il est midi, c'est l'heure sacrée, l'heure de la pleine lumière, l'heure de la pause bienvenue de la mi-journée. Même la nature, même les insectes semblent s'arrêter. Il est temps de se restaurer, il est temps aussi de mesurer le travail accompli et le travail qui reste. Sous le soleil de midi à Marseille, on sort un grand capéou, un grand chapeau, pour résister aux rayons solaires qui s'infiltrent partout. À Athènes, sur l'Acropole, le midi solaire est peut-être l'heure d'une renaissance. En avril 1993, notre astre solaire et son règne sans partage, au milieu du jour, inspiraient à Catherine Soulard et Bruno Sourcy une série de nuits magnétiques dont voici le premier volet. Il est intitulé « Le temps suspendu ».
C'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle, main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages.
Midi, c'est une heure qui sépare le temps des autres. Midi, je crois, on vit vraiment, moins peut-être que les Anglais, mais on vit vraiment ce sentiment qu'il y a avant midi, après midi, que ce que vous n'avez pas fait avant, il faut le faire vite. Je crois que c'est malgré tout un petit choc psychologique chaque jour dans votre vie. Quand vous dites « il est midi », c'est un petit peu... C'est le rappel de l'estomac, c'est un peu le rappel qu'il va falloir manger, mais c'est un petit peu aussi le rappel de de ce que vous n'avez pas fait, de ce qui vous reste à faire pour la journée. Ce que vous n'avez pas fait avant midi, il faut vous dépêcher de le faire parce que bientôt le soir va venir. Et c'est déjà un peu un appel à la nuit et au lendemain. Je crois que midi, moi je le vis comme quelque chose qui est un choc, qui marque quelque chose. Un temps, 10 heures ne marque pas beaucoup, 3 heures, mais midi, c'est pas une heure indifférente. Midi n'a pas le même sens que les autres heures.
Alors, premièrement, quand à midi, nous sommes en pleine mer, on a encore une heure de pêche. Une heure de pêche, pourquoi pas? Si on rentre avant, on a un tas de choses à voir. Alors, on aime mieux, le Marseillais rentre au dernier moment de la mer. Pourquoi? Parce que il profite le plus possible, et puis c'est le moment où le poisson, je sais pas, c'est midi, le poisson mange comme nous. Alors, on mange après lui. Alors, là, principalement, c'est qu'il faut avoir entre midi et 13 heures un grand capéo. C'est un chapeau marseillais, c'est une chose nécessaire. En naissant, quand on est petit, on nous met un chapeau sur la tête et on nous le dit déjà. N'oublie pas le chapeau, n'oublie pas le chapeau. Enfin, oh mais ça, si on n'a pas ça, eh ben, si le soleil vous surprend, non seulement ça vous attrape une insolation, le poisson que vous avez pêché, s'il est au soleil et qu'il n'est pas couvert lui non plus, eh ben, il tourne, le poisson tourne parce qu'il tourne très vite le poisson. Et la chaleur le fait tourner. Alors on a une banaste c'est un panier à nosier qui est couvert avec un truc à nosier dessus, et le poisson se tient au frais là-dedans, et alors on rentre à midi, comme je vous dis, comme on avait déjà lavé le poisson, on arrive de suite dans la marmite, il n'a pas le temps, avant il n'y avait pas de frigidaire, nous avions des glacières, et il fallait acheter la glace, une chose ou l'autre, tandis que maintenant, on le met directement dedans.
Les portes s'ouvrent, les bureaux se vident. Sur les marchés, l'excitation est à son comble. Dans les écoles, les cours de récréation explosent au signal de la cantine. Les malades dans leur chambre ont fini leur déjeuner, les prisonniers aussi. Dans les bistrots, on se bouscule au zinc. Un jambon beurre et un café, un pastis, un demi. Tout valse, tout grouille. Mais quelque chose s'arrête, quelque chose a cessé. Réouverture à 14 heures. Entre midi, disent les Lorrains. C'est l'effacement de tout, et midi suspendu. Dans cette économie de l'extrême, cet équilibre juste et précaire, entre aube et crépuscule, entre le commencement et la fin, il est midi. L'heure de convoquer Zarathoustra, Isée et Messa, Antigone, Œdipe, Mélisande, Golo, Jeanne d'Arc, la reine de Saba et la Samaritaine. L'heure d'évoquer des paysages où l'univers semble se pétrifier. Une place, une clairière, la mer. L'heure d'appeler les objets, cadran solaire, miroir, horloges ou sirènes, sphinx et obélisques. C'est l'heure des attentes, des voix et des trains qui sifflent en arrivant en gare. Le moment de respirer le parfum de la dame en noir, tandis que midi règne en roi des épouvantes. La violence de midi. Entre chaos et certitude, midi le fou, l'étranger qui bouleverse le jour, le temps d'une courte échancrure. Une cloche s'égrène, un visage se penche, mélancolique. Midi pactise avec le monde. C'est le temps dictateur qui devient éternel. Ni ombre, ni écho, la rigueur. L'instant est géométrique, voluptueux peut-être. Midi est noir comme l'absence, rouge comme le sacrifice, blanc comme la panique. Attentats et rapts, promesses et prouesses. C'est l'heure du partage. Lumière hallucinante où les pierres vont parler, les arbres frémir, et où les esprits rôdent, démoniaques ou fantomatiques, dans l'air tiède qui défaille. Midi l'excès. Tout est possible. Apparaître, disparaître, mourir et se transfigurer dans des éclipses, des pièges et des convoitises. Midi vrai, midi moyen, midi solaire, l'astre passe au méridien, le balancier balance, l'aiguille s'immobilise. À peine. Il faut devenir sage, ne plus faire de gestes inutiles, ne plus chercher midi à 14 heures. Concentration et expansion. Impossible de revenir en arrière, il est midi sonné. Impossible de rester au zénith, il est midi tapante. Alors passer, tournoyer, réinventer midi. Le sens est unique, le cap est difficile. Et sur l'autre versant, c'est la suite de l'histoire. La frontière est périlleuse, le vertige assuré sous ses rayons mortifères, car l'angle est dans un cercle et tiraille. Dans l'œil de midi, on ne peut rien saisir. Seul peut être l'énigme, le secret et le manque. Vaincre à midi, c'est accepter de perdre. Voir à midi, c'est ne rien voir, ou tout voir blanc, ou tout voir noir. C'est être le soleil, et brûler, au centre du feu, et brûler. Que faire d'autre, sinon perdre la maîtrise? Voir à midi, c'est regarder au-delà. Au-delà des mirages et des éblouissements. Au-delà, vers minuit. Au loin est la coïncidence. Il est midi, l'heure sacrée, sphérique et angulaire. Il est midi, l'heure païenne. Les images vacillent, l'air hésite, on a soif. Le corps se souvient d'avoir été androgyne. L'âme s'impatiente de jouer à qui perd gagne. La réverbération va venir. C'est l'heure des pactes, peut-être aussi l'attente d'une mort éblouie. La chaleur est compacte, la lumière aveuglante. Dans l'air, au-dessus de la mer, dans l'espace, au-dessus des champs, passe rapide un éclair de panique. Il est midi, quelque part autour de la Méditerranée. Peut-être en Grèce. Oui, en Grèce. Jacques Lacarrière.
C'est vrai qu'à midi, c'est l'heure où Pan se repose, toujours on dit. C'est la parenthèse, mais c'est pas seulement la parenthèse pour Pan. C'est en général la parenthèse de tout, tel que les Grecs anciens ressentaient midi. C'est la parenthèse, une parenthèse pour le trajet du soleil, une parenthèse pour la lumière elle-même, une parenthèse encore plus grande pour l'ombre, et une parenthèse aussi pour les choses en général, qui pendant cette heure, ou plutôt ce moment particulier, connaissent une sorte d'interruption, je dirais de ptose, presque au sens d'arrêt, n'est-ce pas ? Qui est caractéristique de l'heure du midi, parce que c'est l'heure où le soleil se trouve juste au moment où il va commencer le trajet inverse qui va consister à redescendre. Et pendant le moment où il passe de l'extrême hauteur au début de sa descente, il y a ce qu'on pourrait appeler dans les saisons un solstice, c'est-à-dire qu'il reste au même endroit et pendant quelque temps. Alors il y avait cette idée que le soleil restait un certain temps, quelques minutes, peut-être un peu plus, immobile, autrement dit, avec toujours la crainte qu'il ne continue pas son parcours. Et pendant cette minute immobile, effectivement, il y a une sorte d'arrêt du temps, qu'on va retrouver partout, pas seulement chez les Grecs anciens, mais plus tard aussi chez les chrétiens, et dans d'autres religions et dans d'autres cultures. C'est le moment où le soleil, faisant cette pause, peut-être infinitésimale, mais fondamentale, interrompt pendant quelques instants le cours de l'univers, et notamment du cours de la lumière. Comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que le soleil est tantôt au milieu du ciel, il faut penser que tout ça est né dans un pays qui s'appelle la Grèce, c'est encore plus net en Égypte, donc dans des pays où il fait très chaud, où le soleil est brûlant, et juste à ce moment-là, quand il est midi, c'est le moment où, par exemple, les ombres sont les plus minces, les plus courtes. Au point même que dans un endroit d'Égypte qui s'appelle Sienne, il y avait un puits très célèbre où le soleil n'avait pas d'ombre du tout. Oh, et c'est ça qui est très intéressant. Là où il n'y a pas d'ombre, ou tout au moins où l'ombre en est réduite à sa plus extrême expression, ça veut dire que c'est là où la vie est suspendue de la façon la plus dangereuse. Parce que pour tous les anciens, et pas seulement pour les Grecs, pour les Égyptiens aussi, l'ombre, c'est une des épiphanies, c'est-à-dire une des manifestations de l'âme. Midi, c'est donc le moment où l'âme se rétrécit. C'est ce moment de fragilité où, en raison de l'intensité de la lumière, mais surtout de l'arrêt du soleil, la vie est comme suspendue, comme si le balancier du temps restait immobile avant de repartir dans d'autres directions. Et c'est le moment donc où l'âme, parce que son image qui est l'ombre est à son, je dirais, sa distance la plus mince et à son moment de vie le plus ténu, est elle-même comme menacée. Elle est, j'allais dire, en état. Elle perd son immunité psychique, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est en état de fragilité parce qu'elle elle est victime de cette sorte à la fois d'arrêt de la lumière, d'arrêt du temps, d'arrêt du mouvement, autrement dit d'arrêt de l'orbite du soleil, et de l'arrêt de la vie, qui heureusement ne dure pas longtemps, mais qui dure pendant ce point de suspension de la lumière, de la vie et du cours du soleil. Donc ça veut dire que c'est le moment où l'âme, et donc la personnalité psychique de l'être humain, se trouve la plus fragile parce que, en état de suspension elle aussi.
Volière parsemée de vertiges, midi perle au zénith, les champs regorgent de présence. Le sommeil côtoie l'espace. Tous deux vont vers les hommes couchés dans l'herbe exfoliée. Midi guette un homme à ravir. Quelque chose hante les steppes charnelles, dévore. La pesanteur des jambes, viscère de l'herbe chaude. Les hommes chancellent sous les noces ostensibles du sol et de leur sang. Certains parlent de mondes interdits. Leurs mots se perdent à l'occident des lèvres, tandis que midi achève les espaces où d'autres attendent sans comprendre. Ai-je jamais parlé de ses amours ?
J'ai essayé d'enregistrer une araignée qui tisse. Et là, il faut vraiment passer des nuits avant d'avoir un petit bout qui est valable. C'est enregistrer les vers dans le bois, les signaux qu'ils font. C'est enregistrer le langage des fourmis en quadrophonie. Et la première fois, tout à coup, ils ont attaqué à la fois tous les quatre micros. C'est assez bizarre. J'ai enregistré un petit lapin qui ronfle dans son trou et qui rêve et tout. C'est très, très émouvant.
Knut Victor est danois, poète et bricoleur de génie. Il a quitté son pays il y a maintenant bien longtemps pour s'installer ici, dans le Luberon, face aux gorges du Régalon. Dans une petite maison de rien, adossée à un figuier, où magnétophones et cassettes s'entassent et enregistrent à longueur de jour et de nuit la guerre des fourmis, les vols des bourdons, les amours des cigales.
Mais c'est surtout l'été, où, avec tous les insectes qui est à leur sommet, au point de vue son. Mais il y a aussi le fait qu'il y a plus de paix, plus de silence à midi, ici. Et ici, il y a normalement, ou souvent, une peste sonore, qui sont les avions. Et j'ai l'impression qu'ils mangent à midi. Alors, il y a trois quarts d'heure où on est tranquille. Et là, je travaille, je ne mange pas. Quelquefois, l'air dense, ça ondule, en fait, oui. Mais c'est surtout la lumière qui est forte. Parce que la terre est blanche. Et c'est surtout au milieu de la journée que ça reflète.
C'est une lumière qui comblait les pierres.
L'heure de midi, justement, vous avez trouvé qu'il y avait une différence entre le Danemark et ici ?
Ah oui, bien sûr, oui, tout est différent. Mais même là-bas, à midi, c'était quelque chose pour moi. Mais je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une certaine ambiance à midi quand C'était de la campagne. Il y avait les poules qui... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Qui parlaient quand ils avaient produit des œufs. Que, oui. Et pour moi, ça avait vraiment une liaison avec la chaleur, le soleil et la paix surtout. Quelquefois, devant ma maison, il y a d'autres choses qui se passent à midi. Par exemple, il y a, au-dessus de la table, il y a une petite mobile de bambou. Là-dedans, il y avait un bourdon qui faisait son nid. Et c'est souvent ce bourdon-là qui remplissait le midi. Il y avait plein de choses, autres choses qui se passaient autour. Il y avait, dans le mur, il y avait un nid de messanges et... Il y avait toute une petite vie qu'on sentait très fort justement à cette heure où les avions se reposaient un peu. Et c'est un autre relief à ce moment-là que le reste de la journée. On entend les vols des ailes. Là, on vient à une autre question. Midi, c'est pas midi, parce qu'on a changé l'heure. Ce que moi, je suis personnellement très contre. C'est surtout le matin que ça se sent, parce qu'on prive la nature et la faune d'une heure tranquille après le lever du soleil, avant que l'homme commence ses activités. Et ça, c'est extrêmement important, on ne pense pas toujours ça. En plus, l'été, c'est le moment où la plupart des petites bêtes se reproduisent. On nourrit les petits et ils ont besoin d'avoir la tranquillité.
Nous sommes dans une petite maison qui est au pied de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, d'où on peut voir la mer, une partie de la mer, la rade en fait, avec les stacks en face, et quelques maisons même très mal construites au bord de la mer.
Marseille, la rade est belle en bas, étincelante et immense. En bas, il y a le bruit de la ville, les pavés brûlants, l'envie de fuir vers les îles. Mais ici, tout près de Notre-Dame-de-la-Garde, il y a des arbres dans les jardins, et l'air est léger. D'ici, Marseille semble assoupie autour de sa rade. C'est cette ville qu'Andonis Voulioukas découvrit un jour, fuyant la Grèce et le régime des colonels. C'est cette ville qu'il aima, et dans laquelle il s'installa pour y faire du théâtre. À son théâtre, il a donné le nom de Gyptis. Gyptis, fille de Nan, le chef des Ségobriges qui, d'après la légende, abordèrent vers 600 avant Jésus-Christ à l'embouchure du Rhône, les Phocéens, conduits par leur chef Euxène. C'était le jour où la fille du chef devait, selon l'usage, choisir un époux en présentant à l'un des jeunes hommes rassemblés au banquet une coupe pleine. Gyptis l'offrit à Euxène. C'est ainsi que naquit Marseille. Peut-être était-il midi. Andonis Voulioukas.
Moi, j'ai besoin de la lumière parce que je ne peux travailler que quand le soleil est là, c'est-à-dire quand il brûle, quand il chauffe, quand je renais. Je peux travailler pendant plusieurs heures à l'intérieur d'une salle fermée, mais je ne peux pas travailler ici quand le soleil se couche, du tout. Je peux lire, je peux écouter de la musique, mais je ne peux pas travailler réellement. Alors à l'heure du midi, évidemment, ici, c'est resplendissant, parce que bon, la rosée brille, parce que les oiseaux chantent, parce que c'est une sorte de petit paradis dans lequel nous, disons, nous pouvons trouver une partie, pas trouver. Je pense qu'on ne trouve presque rien, mais qu'on fait qu'à chaque fois une sorte de voyage initiatique. Pour moi, c'est ça, si vous voulez. Au moment où le soleil arrive au zénith, c'est en général à midi, c'est encore une fois, on est reparti avec lui. On est reparti quelque part vers des sentiers inconnus ou des sentiers peut-être connus, mais qu'on n'arrive pas à monter au conscient. Et dans mon métier, c'est indispensable, presque chaque fois, de partir du néant pour arriver quelquefois vers le conscient. Plus ici, dans cette maison en particulier, le soleil, il va faire une courbe merveilleuse qui va enlacer complètement toute la véranda et qui va prendre toute la mer et il va se coucher dans la mer. Ce qui fait que le soleil a une présence capitale, si vous voulez, permanente jusqu'au dernier rayon. Il est toujours là. Alors, l'heure du midi n'est pas seulement une heure du midi, mais c'est une heure de lumière, si vous voulez. Cette lumière qui continue malgré tout, même s'il doit se coucher. Et bon, ça perd alors le caractère très restreint d'une heure précise, si vous voulez, pour prendre quelque chose de plus large. Ça veut dire le moment où encore on est vitaux, où il y a cette puissance intérieure, où on a envie, finalement, de se découvrir et de, en même temps, transmettre tout ce qui nous tourmente, ou tout l'humour qu'on a en nous-mêmes, ou toute la bonté, la chaleur qu'on a en nous-mêmes, on veut la transmettre à autrui. C'est presque nécessaire. Quelquefois, la transmettre à un arbre. Moi, je vais chanter aux arbres, souvent, sous le soleil de midi. Et si vous voulez, c'est un lieu, bon, vous voyez, il y a toujours ici un chien, il y a plusieurs chats, il y a... C'est un lieu, bon, où, par hasard, nous pouvons vivre en même temps à l'intérieur d'une cité, au centre de la ville, puisqu'on est au centre de la ville ici, et en même temps étant absolument à l'extérieur de la ville. Ça veut dire, vous avez vu qu'il n'y a aucun bruit qui arrive jusqu'ici. C'était pas pour éviter le bruit, ni pour éviter les gens, évidemment, qu'on est arrivé ici, mais pour retrouver peut-être ces rapports indispensables. Prendre la terre, par exemple. Moi, je travaille beaucoup le jardin, je jardine beaucoup. Et prendre la terre et humer la terre, c'est quelque chose qui m'est indispensable. Mais il y a ce rapport immédiat. C'est-à-dire, on a un rapport immédiat avec la nature. Et ça peut me permettre de supporter les gens après. Parce que c'est vrai que dans cette vie, il faut supporter les gens. Alors là, si vous voulez, ce n'est pas une heure du midi, mais même en plein midi, certains êtres, disons, certains gens qui ont le pouvoir, si vous voulez, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais senti des différences d'horaire, que tout est toujours nuit. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas jouir de chaque instant. Ils ne savent pas probablement qu'ils vont mourir. C'est le plus dramatique, je crois, de notre époque, la chose la plus dramatique. Ils ne vivent pas pour l'instant, comme dit Oscar Wilde. Pour moi, c'était toujours un principe, vivre pour l'instant, que pour l'instant, en sachant que l'instant d'après, je peux être mort. Alors c'est midi à ce moment-là, automatiquement, parce que nous sommes dans une sorte d'effervescence, si vous voulez, du corps, de l'esprit, de l'âme, ça veut dire tout ensemble. Tout fonctionne en même temps, ça veut dire une sorte de vitalité. Et c'est ça, le midi dans cette maison, le midi dans le théâtre, c'est d'oublier qu'il y a des gens qui portent en eux le noir, qui portent tout le temps... mesquinerie. Et ces gens-là portent en permanence, si vous voulez, ombrage au soleil de cette cité, parce qu'ils ne le voient pas. Ça veut dire, ils ne savent pas jouer avec un rayon de soleil. Je suis sûr, je posais la question une fois, ils ont cru que j'étais fou. Je demandais à une réunion politique, est-ce que vous avez l'habitude de monter sur un rayon de soleil et monter comme ça, et disparaître dans l'azur en s'amusant, et après glisser, redescendre. Alors ils ont cru que c'était un idiot. Ils ont dit, ça c'est le poète, bon, c'est les artistes, alors c'est un idiot. N'en répondons pas, n'en parlons pas. Et pourtant c'est ça.
Première cassette existe toujours et c'était une rossignol tout de suite pour essayer le magnétophone. Je n'imaginais pas à ce moment-là que je voulais en travailler une bonne partie de ma vie plus tard.
C'était à midi aussi que j'ai fait mes premiers essais d'enregistrement de cigales pour essayer de tirer les individus différents, parce que cette époque-là, j'avais trouvé 5 espèces différentes ici de cigales. Alors, je voulais avoir aussi clair que possible chaque espèce. Et là, j'avais trouvé une formule pour extraire ce son-là. Et je n'avais pas de parabole. Je ne connaissais même pas une parabole professionnelle. Et j'avais trouvé une couvercle de lessiveuse où se soudait la carcasse d'un abat-jour pour tenir le micro avec mon petit Philips. Et ça marchait assez bien, même étonné. Et quand il n'y avait pas de bruit, pas d'avion, pas de gens, là, justement dans le coup de midi, je suis allé dans la forêt là. Et c'est toujours ces enregistrements. Il y avait une chose qui ne marchait pas, et c'était le chant d'une toute petite cigale qui réussissait d'entrer en résonance avec le couvercle. Et ça fait un bruit infernal comme un moteur. Ça ne marche pas du tout. Pour les cigales, c'est vraiment... C'est pas un moment de silence. C'est là où on peut trouver leur activité. Enfin, les cigales qui, au fond, vivent toute leur vie sous terre. Et ils vivent quelques semaines sur terre. Ils profitent au maximum de toute la lumière, toute la chaleur qu'ils peuvent. Ça, c'est à midi, quand le soleil est haut, où ça marche bien. C'est là où on entend toutes les variations des chants des mâles pour attirer les femelles, et aussi quand ils s'accouplent. Ça, c'est surtout à midi. Mais aussi parce que, en général, on est moins gêné par les bruits de l'extérieur. Ça prend un relief. Mais il y a une chose pour moi, c'est que la nuit et le jour, maintenant on parle de midi, mais minuit et midi, Ça a un rapport très fort pour moi. C'est l'un qui fait l'autre. On a le midi en soi, et à midi, on a la nuit en soi. C'est ce que je sens, moi, mais c'est aussi parce que je travaille toutes les heures, nuit et jour. Il n'y a pas d'arrêt. Par exemple, la cigale qui sort à minuit, c'est en général c'est minuit qu'elle sort, c'est quand même pour avoir le sommet de son activité à midi. Elle passe toute la nuit là pour faire sa métamorphose et sécher. Et s'il n'a pas mangé le matin, elle s'envole quand le soleil se lève, et elle commence vraiment à chanter autour de midi. Moi, je pense que c'est vraiment l'un n'existe pas vraiment sans l'autre. Pour les cigales, à midi, quand vraiment il fait chaud et le rythme est intense, il peut arriver qu'il y a une petite nuage qui est assez nette, d'une façon que ça change la lumière d'un seul coup. Et là, on peut assister à un arrêt complet des champs de cicales, parce qu'il devient désorienté peut-être, ou peut-être il croit que c'est un ombre qui vient, et le chant s'arrête.
J'écris assis sur un banc de pierre, dans un bourdonnement vague. Il est midi. Le soleil achève de tuer les lilas. Même les oiseaux ne s'affairent plus et ne chantent qu'à mi-voix comme s'ils se parlaient à eux-mêmes.
J'ai vécu comme ça ma jeunesse. Tous les jours, pendant une très longue période de ma vie, je montais tous les jours à l'Acropole. Et à l'heure du midi, j'étais dans l'Acropole, j'étais à l'intérieur du Parthénon quelquefois. Ça veut dire que j'avais les rapports, comment vous dire, en même temps, dans mon corps, c'était revivre pas seulement tous ces passés extraordinaires, mais faire partie de ces passés. Ça veut dire en fait complètement m'oublier moi-même, puisque je n'en étais plus, j'étais quelque chose d'autre. Mais quoi d'autre? Une pierre, peut-être. Un serpent d'Athéna, l'olivier qui était là, je ne sais pas. C'est-à-dire, cette idée n'était pas venue d'ailleurs intellectuellement, mais de façon organique. Comme je devrais partir de chez moi pour aller à mon lycée, j'avais décidé d'avoir mes horaires à moi, ça veut dire une façon particulière. Et au lycée, je devrais être vers 2 heures de l'après-midi. C'était quand on travaillait dans l'après-midi, et je partais tôt de chez moi. Je faisais alors 5 à 6 kilomètres à pied, parce que j'allais toujours à pied partout, et je montais à l'Acropole tous les jours pendant ça à peu près 3 ans. Tous les jours pendant 3 ans. Ça me permettait alors de vivre plusieurs vies, si vous voulez, ou renaître chaque fois. Et après, je pouvais repartir, ça veut dire vers midi et demi à peu près, pour avoir encore 1 heure et demie de marche pour entrer à mon lycée, où là, il y avait, disons, un autre rapport. Mais entre-temps, je n'étais plus le même. Alors, quand le soleil chauffe, ou quand il ne chauffe pas en hiver, quand il neige, par exemple, c'est pareil. Parce qu'il y a une sensation que tous les êtres humains la connaissent. Moi, je sais parce que j'ai vécu des moments un peu durs dans ma vie, comme beaucoup de gens, et même à des endroits, disons, où normalement la lumière n'entre pas, et ça peut nous arriver, malheureusement, dans des pays barbares, un peu, ou des pays où les régimes politiques ne sont pas démocratiques, on sent par exemple l'aube arriver. Ça, c'est très étrange. On peut être n'importe où, à n'importe quelle cave, on sent l'aube arriver. C'est pareil, on sent midi arriver. C'est des choses qu'on ne peut pas les expliquer. Il y a dans le corps la naissance, si vous voulez, des choses. Parce que dans le corps, il y a le soleil. Dans le corps, il y a la nécessité que ce soleil éclabousse finalement avec sa lumière. Alors même quand il est couvert, même quand il pleut, on sait quand c'est midi. Le problème, c'est que en Méditerranée, quand il pleut, quand c'est gris, ça crée des rapports cyclotimiques d'une violence inouïe. Ça veut dire là où on est très gai, soudain, on commence à pleurer sans savoir pourquoi. Et dès que le soleil, on le voit un tout petit peu pointé, on recommence à être gai. On recommence à avoir cette joie intérieure. Ça veut dire que le manque même momentané, ce qui est si rare ici, du soleil, même si on le ressent derrière le nuage, nous manque tellement qu'il crée ces tensions permanentes en Méditerranée, le chute des tensions, si vous voulez, des rapports cyclotimiques. Et ça, c'est, moi, je trouve passionnant, parce que ça montre comment il est nécessaire.
À Rome, autrefois, quand de la curie on apercevait le soleil entre les rostres et le grécostase, l'heure de midi était annoncée au consul par un appariteur. Ce qui devait être accompli avant midi ne devait pas l'être après, et réciproquement.
Plutarque n'écrivait-il pas d'ailleurs qu'aucun chef romain ne signait de traité après midi. Cette heure marquait le terme des occupations politiques et des affaires sérieuses.
Comme d'habitude ici dans le midi, même en hiver, vous voyez, on mange souvent dehors maintenant à cette période. C'est vrai que vers midi, il commence à être chaud, à être doux, à être agréable. Ça veut dire que c'est le moment où on peut descendre, où on peut prendre un livre, on peut lire. Si je ne suis pas pressé d'aller au théâtre, c'est en général ça, j'ai cette chance le week-end, la plupart du temps. Alors là, c'est merveilleux parce que je me trouve en bas, toujours avec un livre dans la main. Et, bon, quelquefois, c'est la rêverie. Vous savez, dans ces cas-là, on lit mal, mais c'est très agréable parce qu'on se rend compte qu'on a rêvé beaucoup plus. Il faut revenir en arrière. On revient en arrière, on repart. Et c'est, si vous voulez, une sorte d'échange. C'est un échange. C'est un échange, ce n'est pas que le soleil d'ailleurs, parce qu'il y a la brise, quelquefois il y a le mistral. Ça veut dire, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments. Ce n'est pas un élément de la nature. Le soleil, il crée que tous ces éléments se réveillent en même temps, que tous ces éléments veulent participer en même temps. C'est important quand il y a plusieurs oiseaux qui viennent jouer tout autour parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de danger. Ça, on ne sait pas pourquoi ils le savent. Et alors ils viennent picorer à droite et à gauche comme ça. Et je suis là. Et c'est vrai que là, au moment où on lit, on est distrait parce qu'on regarde s'il mange bien, s'il a des choses. Et il y a, si vous voulez, une sorte d'osmose entre l'être humain et tout ce qui l'entoure. Et ce qui fait que c'est le moment de perte complète de soi.
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regardez,
pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regarder votre visage. Laisser le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire. Mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle. Parce que vous êtes immaculée. La femme dans la grâce enfin restituée. La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final. Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.
Sophie Chauveau.
C'est un texte d'abord qui a une sonorité particulière chez Claudel, qui est une forme d'intimité avec, en l'occurrence Marie, mais quelque chose de l'ordre de la religion quand même, et familière. Il y avait de la lumière, je suis rentrée quand même. Là, il y avait de l'ombre, il y avait de la fraîcheur. C'était l'heure arrêtée, c'était midi. Et quand j'étais très petite, à 14-15 ans, je trouvais que c'était la dernière des raisons d'avoir la foi. C'était un havre, c'était l'église telle qu'on la voit dans les romans en plus. Le lieu où on a la paix, où on va chercher le repos de quelque chose qui n'est pas forcément l'âme. C'est cet espace diplomatique où on ne peut pas vous atteindre. Et c'était midi, c'est-à-dire mythologiquement quelque chose d'important. Marie, midi, comme ça, et cette familiarité-là, oui, ça me touchait beaucoup. Puis ça continue de me toucher vraiment. Quand je retombe dessus, j'ai une espèce de frisson de quand on a trop chaud. Il y a une intensité de la chaleur, là.
Alors, il est midi, parce qu'il est midi, il y a dans ce poème de Claudel une évidence de midi, une présence, comme si à midi, il y avait une façon spécifique d'exister, une intensité. Et alors, simplement, c'est être là, regarder, pleurer, être là.
C'est intense, hein. C'est un moment, c'est le zénith, donc c'est le basculement, donc c'est un signe symbolique, midi, c'est le marquage de la fracture. Les matinées sont réussies si on s'est levé suffisamment tôt avant midi. On ne peut pas vivre ces matins si vous reste 2 heures avant midi, il faut commencer plus haut. Bon, l'après-midi, c'est un peu autre chose, parce que c'est le déclin, parce qu'on va vers ce que moi, je continue d'appeler et de ressentir l'angoisse du nourrisson à l'heure du coucher du soleil. Je suis nourrisson tous les soirs 20 minutes, hein, parce qu'on m'enlève la lumière. Bon, alors, pour revenir à midi pile, c'est-à-dire à cette heure symbolique, indécise, imprécise, et pourtant, là, dans le poème de Claudel, dans la réalité de ce poème, l'heure immobile, l'heure d'un certain danger, ça bascule. Midi, c'est quand même quelque chose comme je retiens mon souffle. On va passer. On passe sur l'autre versant de l'ombre qui change de place, de l'immobilité. C'est une immobilité, mais c'est un danger. Comme tout ce qui s'arrête, tout ce qui se fige. On attend que midi passe. Là, il y a... Et c'est un espace vierge, un espace qui pourrait être un espace perdu, mais qui peut être rempli par quelque chose qui est... On ne sait pas ce qu'on attend, mais quelque chose va venir.
Je préfère midi, répète l'Angélus.
J'ai des souvenirs d'enfance dans le Haut-Vivarais, un petit village qui s'appelle Boza, entre la Mastre et la Louvet.
Jacques Bonnatier.
Et je me vois encore, moi qui étais passionné par la vie rurale, qui suivait les fermiers, les métayers dans leurs activités, que ce soit pour les vendanges, pour les moissons, pour les foins ou pour toute autre chose. Je me vois encore rentrant avec eux sur le chemin de leur ferme pendant que l'Angélus sonnait. Et sonnait longuement, d'ailleurs. Encore plus longuement lorsque c'est moi-même avec mes cousins qui allions le sonner. Ça durait une demi-heure, l'Angélus. Le midi durait une demi-heure. C'est le milieu du jour. Bon. Alors on fait une pause, l'Angélus sonne, on rend grâce au Seigneur et puis on va manger un morceau. Et puis après, on reprend sa tâche jusqu'au soir. Ça me semble naturel.
Je regarde midi,
c'est arrivé. Quand je cligne des yeux, de grands épis de blé descendent du soleil.
J'ai des souvenirs beaucoup plus enfantins, où l'heure du midi, d'abord c'est l'heure où on sort de l'école, on rentre chez soi et on triche. Il y a un espace, peut-être que c'est lié à ça d'ailleurs, en parlant, je pense que c'est un espace volé aux parents. On prend là, et c'est une heure immobile, puisque de toute façon on arrivera pour l'heure du déjeuner, pour avant midi. Ça ne bouge pas, ça se dilate, c'est une heure de dilatation de l'instant et du temps.
Voici bientôt l'heure méridienne. Voilà, bon ben allez-y, hein, chantez. Je vous écoute. À midi, je m'arrête. Quand je vais à Paris, je suis sidéré. Évidemment, les gens commencent à 10h ou 11h. Ils demandent à quand ils travaillent. Mais évidemment, ils continuent après longuement. Jusqu'à 1h15, 1h30. Moi, à midi, je m'arrête, je commence à m'arrêter, et je me dirige vers le lieu le plus proche où je peux me restaurer convenablement. Alors, je descends la Canebière, j'évite tous les fast-food et autres kicks, car on dit kick, non pas quick, et je vais dans un petit restaurant de la Place aux Huiles, où on mange divinement bien et pour pas cher. Non, pour vous dire que midi, c'est quand même en Provence et à Marseille encore, malgré la grandeur de la ville, malgré les mœurs franchimandes qui se sont répandues jusque chez nous, c'est quand même l'heure où on s'arrête pour aller déjeuner, peut-être encore pour certains pour faire la sieste, car si je reprends la définition du petit Robert, je vois méridienne, sieste que l'on fait vers le milieu du jour. Bon. Il y a encore quand même, je crois, largement répandu dans cette ville l'habitude ancestrale de prendre un moment de repos. Et c'est très bon de se couper à midi, c'est très très bon. Ça permet de décompresser, ça permet de vraiment se reposer. Moi, mon midi, c'est ça. C'est une parenthèse attendue et souvent agréable. D'autant plus agréable que le temps est agréable lui-même et que l'on peut descendre en ville, aller jusque sur le port, au soleil, dans un certain calme finalement, sans être trop speedé, stressé. Moi, pour moi, ça a beaucoup d'agrément. Mais il faut dire que j'ai un métier qui me permet quand même d'avoir une très grande liberté. Ce midi, il peut être à midi moins le quart, il peut être à midi et demi, je l'aménage à ma façon. Mais enfin, c'est pour dire que l'heure méridienne, cette heure du milieu de la journée, le milieu de jour, comme on dit en provençal, le milieu du jour, mais c'est une heure qui est un peu sacrée finalement, et qui, malgré les soubresauts de l'environnement, malgré les changements de mœurs et de mentalité, conserve une certaine valeur dans nos régions méridionales. Précisément.
Il est midi, qu'est-ce qu'il a dit, la petite souris, mais où est-elle sous le lit? Il est midi, qu'est-ce qu'il a dit, la petite souris, mais où est-elle sous le lit?
Quelle heure vous reprenez les enfants? 1h30. À 1h30, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, 1h25 ou 1h30. C'est pour ça qu'ils s'amusent là. Après, ils reprennent, ils vont à l'école. Par là aussi, vous allez aux Acoules. À l'école, aux Acoules, vous autres?
Non, Notre-Dame de la Major.
Ah, Notre-Dame de la Major. Alors, c'est de l'autre côté, là-bas.
Non, c'est juste ici.
Ah, c'est là. Ah.
Là, il y en a une autre, mais c'est la Major, là-bas.
Ah, ouais, voilà.
Là,
voilà.
C'est une église, c'est pas une école.
Je sais, mon grand, j'ai été baptisée et je me suis mariée. Ah, alors, tu vois que je connais la Major et les enfants.
Vous connaissez même très bien.
Voilà, je suis née à la rue des Muettes, c'est pour ça que je parle pas beaucoup.
Ah, moi, la rue des Muettes, c'est eux qui parlent.
La petite moulette. C'est sur le moulet, tu as raison. Là, on est sur le vieux port. On vend tout le poisson par là. Là, 10 francs le kilo, a dit les sardines.
10 francs le kilo de sardines, madame.
Là, elles sont petites jaunes.
Allez, 10 francs, madame.
Oui, je vois, regarde, c'est 10 francs. Mais
allez, c'est les vivants au prix des morts, monsieur. Profitez, regardez un peu. Vous avez vu? Nana, c'est la bradeuse du port. La bradeuse. La bradeuse.
Cependant, midi sonne à la tour de la douane. La boule du sémaphore tombe. Tous les bateaux piquent l'heure, le canon tonne, l'Angélus teinte quelque part, le sifflet des manufactures longtemps se mêle au vacarme des sirènes. Toute l'humanité se recueille pour manger. Le sans-panier à l'arrière de sa nacelle, soulevant le couvercle de bois, surveille d'un œil bien content la maturité de son fricot. Les grands coulis des chargeurs, empaquetés d'épaisses loques, la palanche sur l'épaule comme une pique, assiègent les cuisines en plein vent. Et ceux qui sont déjà servis, assis sur le rebord de la brouette à roue centrale, tout riant, la boule de riz fumante entre les deux mains, en éprouvent du bout gourmand de la langue la chaleur. Le niveau régulateur s'exhausse. Toutes les bondes de la terre comblées, les fleuves suspendent leur cours, et mélangeant son sel à leur sable, la mer à leur rencontre s'en vient boire tout entière à leur bouche. C'est l'heure de la plénitude.
Ils n'ont pas la tête, il n'y a que les queues. C'est la lente qu'ils appellent. Regarde, il y a toute la tripe, il y a tout, vous voyez.
Voilà, il y a tout dedans.
Il y a tout dedans. Oui, et la bouillabaisse, ça met les plus petits. Il n'y a pas les...
L'heure est paisible. Marie-Louise est assise sur un banc, son sac sur ses genoux, le regard un peu vague. Elle se souvient.
Alors, pour autrefois, pour travailler, ça c'est la veille qu'on prépare les gamelles. Seulement, j'avais la chance, moi, que mon mari étant maçon, il pouvait réchauffer. Parce que si vous ne pouvez pas réchauffer, hein, là, il pouvait réchauffer. Seulement, il y avait les petits jeunes, les petits apprentis qui allumaient le feu. Voilà, et on mettait les gamelles tout autour du feu. Hein? Voilà, alors en mettant les gamelles tout autour du feu, elles étaient chaudes au moment du repas. Voilà comment ils mangeaient. Mais les gamelles, c'était ce qui s'est resté de la soupe du soir. S'il restait les pâtes, alors aussi, mais les pâtes, c'est pas trop bon réchauffé. Mais le ragoût, s'il restait du soir, eh bien, il l'emportait dans la gamelle. Arrivant là-bas, il faisait du feu sur le chantier et il chauffait ça. L'été, alors, c'était comme on fait de partout, les salades de tomates, dures, concombres, etc. Pour faire, voilà, ça, c'était plus frais à manger. La soupe au pistou aussi, vous savez pas ce que c'est la soupe au pistou, oui. Alors cette soupe au pistou aussi, on pouvait l'emporter, mais des fois, elle pouvait écrire parce qu'on y mettait une tomate dedans. Alors c'était un peu plus dur pour emporter les gamelles comme ça, mais autrement, si ça allait, il faisait chauffer encore cette soupe qu'on mangeait comme ça. Parce que la soupe au pistou, c'est un fricot. Haricots, pommes de terre, pâtes, c'est un fricot. On mettait un bon morceau de lard, après on pile le basilic avec de l'huile d'olive qu'on mettait dedans au moment de mettre les pâtes. Donc tout ça, c'était comme un fricot, quoi. C'est une soupe très épaisse, c'est pas un bouillon de légumes qu'on mange comme ça. Voilà. Les sols, elles sont belles, là. Voilà.
Les dernières, là, qui veulent faire des affaires.
Voilà,
c'est le turbo. Le prix de midi.
C'est le prix de midi.
C'est le prix de midi. Hein, regardez.
C'est ça que je leur disais que...
Eh bien voilà. Voyez, le matin, les sols 120, les turbos 100 francs. Et là maintenant, on fait les sols 80 francs et les turbos 70.
C'est bien, promets que c'est ce que je leur disais.
Est-ce que j'aime pas rapporter.
Mais non, puis après, c'est du poisson congelé.
Ah non, c'est gelé quand même. Parce que
oui,
c'est
mais
bon.
Il y a la glace. Voilà.
Alors, bon, ça reste pas. On appelle ça le prix de midi. Vous pouvez retourner du poisson, vous pouvez le revendre le lendemain.
Voilà.
Voilà. Alors, le matin, c'est toujours plus cher, c'est les plus belles. Les grosses soles, tout ça. Après, quand il reste des petites soles, petits turbos, eh bien, on arrange, il faut que ça parte.
Bien sûr, mais il faut pas
que ça parte. Reste. On garde rien.
Et là, malgré tout, ça y restait quand même.
Ça y restait quand même, mais on fera la distribution.
Ouais, c'est voilà. Ça, les enfants, les petits-enfants.
Voilà, c'est ça.
Dans les grandes et surfaces, dans les grandes surfaces. Il n'y a pas de midi, il n'y a pas de matin,
ah
y a...
Ouais,
c'est toujours
et
pareil.
Ils vendent. Et ils vendent.
Ouais, parce que les gens ils connaissent pas le poisson, ceux qui connaissent le poisson, ils viennent ici.
Et les 20 centimes, les 50 centimes, ils donnent tout ici en arrondi.
Ils connaissent pas le poisson, mais nous qu'on le connaît, qu'on est de Marseille, on vient ici.
Et voilà.
Et on vient à midi parce que c'est le meilleur marché.
Berthe, vous êtes professeure de français et ce matin, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors oui, on a fait un petit exercice dans le genre des jeux des surréalistes. Alors on a appris un mot, c'était midi, par hasard. Et puis, bon, je leur ai dit sur une feuille de papier de se mettre à écrire tout ce qui leur venait à l'esprit lorsqu'on disait midi. Puis n'importe comment, sans retenue, un petit jeu d'écriture automatique. Voilà, alors moi j'ai été... Bon, des choses tout à fait courantes, hein, milieu de la journée, le sud de la France. Mais tout de suite, alors, arrive chaleur, eau de mer, vacances, plage, soleil. Mais repas. Et j'étais sidérée de... Bon, repas. Manger. Tout le temps. Sonnerie. Alors là, bon, on est bien dans le contexte scolaire. Mais manger. Tout le temps manger. Jour, repas. Puis après, soleil. Bon, alors moitié, certains, mais manger encore, enfin, midi reste quand même, hein, pour eux, le oui. Moment où ils ont envie de manger. Bon, ensuite, alors pour ces gens qui rappellent tout le temps le soleil, la chaleur, bon, même le bleu requin, exotique, corail, voilà, et puis arrive certaines fois l'aiguille du midi. Alors j'ai trouvé intéressant comme association. Et puis ça, oui, le midi de la vie. Alors pour des élèves de seconde, le milieu de la vie, ça m'a quand même étonnée. Hein. Je pense que ça, je vais un peu le pousser. Qu'est-ce que ça représente le milieu de la vie? Puis à quel moment on le situe le milieu de la vie? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis encore arrivée au milieu de la vie, moi. Je me demande toujours ça. Voilà. Et lui, je mangerai des tonnes de bif. 12h, après-midi, soleil, été, jeu, plage. Et puis ça recommence, mer, poisson, voilà. Alors il y en a quand même beaucoup qui ont parlé du point de l'arrêt, quoi. Hein, de l'arrêt. Bon, cette idée de paresse aussi, hein, que moi je trouve assez bien associée à midi quand on en profite bien. Hein, les méridiennes de midi, voilà. Manger, arrêt. Alors, bon, j'ai pas voulu de nom, hein. J'ai pas voulu de nom, mais ça m'intéresserait de savoir aussi les attaches marseillaises qu'ils ont, ceux qui parlent de chansons, là, hein, parce qu'on en a beaucoup de chansons de midi, de fin de repas, de, hein. Voilà, toujours pareil, nourriture, région, bon, c'est, mais sud, soleil, ça revient.
Et fin des cours aussi, hein.
Eh oui, ah oui, heureusement. Ouais, ouais. Bon, ils sont quand même normaux. Voilà. Voilà.
À midi, tout le monde est en place quand Jovas pontificalement apporte dans un plat magnifique un château de tranches safranées embaumées d'huile, de farigoule et de romarin. Alors chacun se lèche les babines, les fourchettes travaillent, les verres se choquent et la parlotte va bon train. Jovas, mon brave Jovas, tu es le roi de la fête. Et chacun se plaît à dire que jamais il n'a goûté meilleure bouillabaisse. Gabi Aïteli, des espadrilles, un pull au vert rouge, l'œil pétillant, les mains théâtrales et le verbe fleuri. Il est marseillais. Tout le monde ici l'appelle Gabi.
Nous sommes à Calanque exactement, à la dernière calanque du Prado, et là où il y a le départ pour tous les gens qui vont promener avec leurs enfants depuis des années en haut de ce sémaphore, ils traversent et puis ils vont à Marseille vers. Pour revenir à cette calanque, c'est une calanque où, à l'heure actuelle, nous sommes privilégiés parce que c'est le bout du monde, les voitures ne peuvent pas aller plus loin. C'est notre calanque, c'est notre espoir, la joie de vivre. Nous sommes tous des collègues, on se rencontre. Je crois que même les morts, ils vont y revenir parce qu'on est tellement bien. C'est un pèlerinage, Calalongue.
Alors, qu'est-ce qui se passe à midi à Calalongue?
À midi? Eh bien, écoutez, c'est le Marseillais qui va commencer à penser. Il nous manque qu'une chose, mais on ne le veut pas. C'est une église, parce qu'on entendrait les cloches sonner, pour savoir. Mais c'est toujours midi. On a toujours cette joie de dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, Nino, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, si elle a fait des haricots et que vous avez fait autre chose, une bouillabaisse, on partage. Eh bien, c'est midi à Marseille, c'est l'arrêt complet. On arrive, on s'assoit, c'est l'apéritif, et puis chacun dit la sienne. Et voilà, voilà la vie. Et à midi, alors on se réunit quelques-uns, et puis on boit notre petit pastagas, et puis la vie continue. Après, une fois qu'on a bien mangé, naturellement, on n'a plus faim quand on a bien mangé. Et on commence un peu encore à regarder. On s'attache à tout à Calalongue, vous voyez, à ces rochers, à ces mouettes qui passent. Calalongue, c'est une petite crèche.
Je connais des tas de gens qui, dans la vie, voient gras.
Cela n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut.
Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon quand la blague à son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur sur une table c'est tout, oui, mais sur cette table il y faudra surtout un aïoli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans façon je te dis là dans ma caboche, le bonheur est mon bon, c'est un tout petit cabanon.
Alors par exemple, lorsque je suis ici, moi, c'est les meilleurs souvenirs de midi que j'ai ici. C'est comme un temps arrêté, là, midi, hein, avec un soleil très, très fort, très violent. Et puis des instants qui... Bon, on ne peut pas même les mesurer. Hein. C'est vraiment le temps arrêté ici. le flux, le reflux, ça paraît toujours tellement égal que on a l'impression qu'on est hors monde, hors temps, hein, un peu bon, dans la matière, hein, dans l'élément, ça fait du bien. Mais ça ne dure pas longtemps parce qu'après, c'est terrible. Alors il y a les idées qui reviennent, alors le flux et le reflux, sont les rêveries du promeneur solitaire et tout ça, on est vite, je trouve, récupéré, hein. Récupéré par les textes qu'on connaît, enfin qui sont un peu nos compagnons. Hein. Alors je pense aussi à Gide, là, quand il parle du soleil qui s'empare de son corps et qui le transforme. Alors moi j'adore ce passage, hein, quand il prend conscience du corps, hein, de son importance par rapport à l'esprit aussi, hein, et qui se met au soleil et qui attend ce soleil là comme pour s'en remplir. Alors ici on les comprend bien ces textes finalement.
Et Camus.
Camus aussi, mais jamais le soleil ne m'a gêné, moi. Je veux dire, jamais il a déclenché en moi des réactions comme ça. Non, plutôt, il m'accablerait, mais je ne crois pas que jamais. Et même si on fait obstacle à mon soleil, ça ne me gêne pas, parce que j'ai l'impression qu'avec la mer, au bout d'un moment, il est plus en moi que dehors, quoi. Donc personne ne me le prendra, là. Hein, il y a comme un peu un oubli de soi. Camus, là, ce passage du soleil, non. Moi, je le comprends mieux quand il est dans l'eau, qu'il s'oublie complètement. Dans la passe, par exemple, hein. Mais pas ce passage-là du. Non, j'aime pas. J'aime pas tellement.
Chez Camus, c'est la mort à midi dans l'étranger.
Oui, et pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête, ça. C'est pas possible. Hein. C'est autre chose que la mort, avec tout ce qu'elle véhicule d'inquiétude et puis de peut-être un peu de peur. Non, là, quand je suis ici, midi, c'est pas ça. C'est au-delà, hein. C'est quelque chose qui est un état un peu à part. Ça n'a rien à voir. Ça n'a jamais été porteur d'angoisse ni d'inquiétude, au contraire. Comme une libération, une sorte de repos. Et en même temps, une attente, comme une attente, mais pas dans l'angoisse, pas dans l'inquiétude. Alors moi ici, je trouve que c'est vraiment l'endroit rêvé, parce qu'il y a ces pierres blanches, là, ce soleil très violent, et puis cette eau, puis sans arrêt, puis ça commence comme ça, vous entendez là, les vagues, hein. Alors ça commence comme ça, puis moi je suis sur le rocher, là, alors je porte toujours un livre, mais après, il me tombe des mains, quoi. C'est vraiment le coup de l'immoraliste, ça. Hein. Et puis, alors on commence par se laisser prendre par ce mouvement, et puis c'est fini, quoi. Hein. Voilà.
Tu passeras midi, tu descendras. Après des heures d'un soleil qui s'acharne avant de quitter, le jour s'atténuera jusqu'à s'amenuiser dans le cri d'un oiseau qui parle déjà noir. Tu descendras midi, je passerai.
Alors, le dimanche à midi, c'était, comme je vous l'ai dit un peu avant, c'était une chose sacrée. Et alors, notre femme, notre épouse, notre amie, n'importe quoi, ont commencé à... Les pêcheurs nous ramenaient des poissons dans la matinée, là, et puis c'était la bouillabaisse générale. On se réunissait trois ou quatre couples et on faisait cette bouillabaisse. Comment on faisait cette bouillabaisse? Il y avait une grande marmite à ce moment-là, éclairée avec du bois dessous. Et dans les quatre familles, il y avait des pêcheurs. Alors, qui en prenait un kilo de poisson, qui en mettait, on mettait les poissons dedans, on faisait la bouillabaisse pour les trois familles. Mais il y en avait pour 10 familles, hein, parce que là, ça commence à bouillir. Ça, alors, la femme préparait tout ça. On commençait, ça criait beaucoup quand avant de manger le marsier. Je ne sais pas si ça vient du diaphragme de l'estomac, si c'est naturel, mais on pense déjà, on n'avait pas besoin de prendre les pilules pour avoir faim. On avait toujours faim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas encore prêt, Rosa? Non, écoute, hein, ça va finir. Même pas de poivre, même pas de safran. Et alors, on mettait tout ça dedans. C'était une bouillabaisse que rien que l'odeur. Vous aviez déjà fait, enfin. Et il passait des gens, tu manges aujourd'hui? Ah, ma femme est pas, tu manges avec nous, hein. Alors, on sort individuellement de 4, on était 12, et puis chacun disait la sienne, une petite histoire. C'était, voilà, l'histoire du cabanon à midi. Et après les repas, Tout le monde est content. Le fourneau, c'était un fourneau, c'était pas un micro-sillon. Il y avait la manivelle. Il y avait toujours un type qui était de service pour faire tourner le fourneau. Alors, on chantait un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Et voilà. Voilà. Voilà midi à Marseille. Ça, ça, tout s'arrête. Même celui qui fait rien, il s'arrête.
Il est midi. Aujourd'hui, le temps suspendu. Avec Jean-Marie Homé, Jacques Lacarrière, Knut Victor, Andonis Vouyoukas, Sophie Chauveau, Jacques Bonadier, Marie-Louise Domillard, Gabi Aïteli et Berthe Kaamagno. Texte de Jacques Lacarrière, François Mauriac, Paul Claudel et Guy Yvic. Nuit magnétique, Catherine Soulard, Bruno Sourcy, mixage, Arlette Adrian, Jean Fèvre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 avril 1993. À suivre.